Les séminaires du Collège de France.
Donc nous continuons avec le séminaire. Alors ça fait longtemps que j'aurais dû recevoir ici à cette table, à cette salle, Alexandre Geffen. Non pas seulement parce que c'est un ami depuis très longtemps, mais parce que c'est une figure absolument pivotale, je dirais, de la recherche sur la littérature en France depuis de nombreuses années. Et alors, Alexandre Geffen est directeur de recherche au CNRS, il est directeur adjoint scientifique à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, il a beaucoup de responsabilités administratives, il fait énormément de choses, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il est un peu comme dans ce que je disais tout à l'heure, le discret et le continu. Il fait beaucoup de choses très différentes, très dénombrables, et il arrive à intégrer tout cela dans une seule personne, qui est lui-même. Si je devais définir Alexandre Geffen, ce serait un peu le couteau suisse de la recherche littéraire française. Parce que c'est quelqu'un qui a d'abord travaillé sur Marcel Schwob, sur les biographies imaginaires, et donc il a travaillé sur les fictions biographiques, ce qui l'a amené à travailler sur la fiction contemporaine, sur par exemple Pierre Michon, hein, c'est très présent, cela, les vies imaginaires hein, dans la littérature contemporaine. Et puis à partir de là, il est passé aux questions d'histoire, de théorie littéraire, la mimésis, la théorie des émotions, qui l'intéresse beaucoup en ce moment-là. Il travaille beaucoup là-dessus avec Sandra Laugier, la théorie de la fiction. Et il s'intéresse énormément, ce sera le sujet d'aujourd'hui, je crois, à la littérature française contemporaine, dont il est l'un des plus éminents spécialistes. Et sur le politique aussi, il a travaillé dans la littérature française contemporaine. Et donc c'est quelqu'un qui a une vision très globale de la théorie de la littérature dans son évolution, quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose à quoi je tiens en particulier, à savoir sur il travaille sur l'évolution des études de l'idée de littérature en gros sur les deux derniers siècles, et donc un peu ce que j'avais commencé de faire dans l'adieu à la littérature. Mais par ailleurs, en plus de tout ça, c'est quelqu'un qui, Alexandre Geffen, se consacre aussi à tout ce qui est humanité numérique, édition électronique. Et si je disais que il est une figure pivotale des recherches littéraires, c'est parce qu'il a aussi, il est aussi le fondateur, en 1999, le fondateur du site internet Fabula, que tous les amateurs de littérature et d'études littéraires, tous les spécialistes d'études littéraires en France et dans le monde qui s'intéressent à la théorie littéraire connaissent, parce que c'est un site de référence que je dirais les autres disciplines nous envient, parce qu'on n'a pas vraiment l'équivalent, je pense, enfin, pas toujours, dans les autres disciplines. Et donc c'est assez incroyable tout ce que fait Alexandre Geffen. Alors il y a de très très nombreux livres, j'en citerai quelques-uns seulement, une édition des œuvres de Marcel Schwob, « Inventer une vie, la fabrique littéraire de l'individu » avec une préface de Pierre Michon sur les biographies fictives, « Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle », c'était chez Corti en 2017. L'idée de littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention, chez Corti, toujours en 2021. Et puis sur le numérique, Vivre avec ChatGPT, paru à l'Observatoire en 2023. Et puis, dans les cadres des fonctions importantes qu'occupe Alexandre au CNRS, Un monde commun, le savoir des sciences humaines et sociales, au CNRS édition en 2023. Et aujourd'hui, il va nous parler précisément de ces questions de lecture et d'effet des livres, de la littérature sur nous. Et donc le titre, c'était « La littérature, voilà, la littérature est-elle une thérapie ?» Donc je suis très heureux de t'accueillir ici, Alexandre, et je te cède la
parole. Merci beaucoup de ton invitation. En fait, je vais revenir ici en 2006. En 2006, c'était la leçon inaugurale d'Antoine Compagnon, tu t'en souviens comme moi. Et Antoine Compagnon se demandait « La littérature, pourquoi faire ?» Alors, s'il se demandait pourquoi faire en 2006, c'est parce que nous étions sans doute dans un paysage littéraire qui avait commencé à changer fondamentalement depuis le moment du nouveau roman, depuis les proclamations de l'inutilité, du jeu formaliste, d'une littérature ludique, ironique, et parce que nous étions entrés au début du XXIe siècle dans un autre paradigme, dans un paradigme que j'ai essayé de décrire comme étant celui des littératures, de la réparation, en tout cas de littérature visant à avoir un effet sur l'écrivain et un effet sur le lecteur. Et c'est cette hypothèse largement diffusée dans les médias, hein, vous voyez en permanence ces couvertures sur les usages de la littérature, que je voudrais évoquer avec vous autour de cette notion un petit peu plus précise que celle d'une efficacité, celle d'une action de la littérature, autour de la notion d'une thérapie littéraire. L'idée que la littérature nous sert non seulement à nous divertir, à nous évader, à comprendre le monde, à élucider le réel, mais aussi à nous faire du bien, à nous guérir, à nous aider à vivre. Si je crois cette question de l'usage de la littérature, d'usage à la fois individuel et collectif, s'est ouverte au début du XXIe siècle, c'est sans doute que nos sociétés avaient changé. Autant l'idée d'une littérature qui était une sorte de passe-temps, de repli, de moment où on s'isolait, où on coupait du monde, avait prévalu lorsque les sociétés, qu'on appelait holistes, les sociétés dans lesquelles les liens familiaux, les liens sociaux étaient très prégnants, et invitaient à la littérature pour nous séparer, pour, au fond, nous rendre autonomes par rapport à cette société. Autant lorsque nous sommes arrivés au tournant du XXe siècle, face au néolibéralisme, face à l'individualisme croissant, l'individu s'est retrouvé seul, s'est retrouvé invité à faire sens du monde par lui-même, à devoir cultiver sa propre faculté de résilience, à devoir se réparer lui-même, à devoir ne plus s'appuyer sur des liens sociaux qui n'existaient plus. Et c'est sans doute à ce moment-là, lorsqu'on est passé de société holiste à de société extrêmement individualiste, que la littérature s'est retournée, qu'elle n'est plus devenue un instrument d'autonomie, un instrument d'émancipation, un instrument critique, mais au contraire un instrument de liaison, un instrument destiné à opérer, à rendre service pour remédier aux souffrances, pour mieux vivre dans des existences qui n'avaient sans doute plus les mêmes cadres d'accompagnement, les mêmes systèmes d'interprétation du monde disponible pour nous permettre de faire face d'ailleurs à des sociétés qui s'accéléraient, dans lesquelles les systèmes de signes devenaient de plus en plus inaccessibles, les grands récits, comme disait Lyotard, du marxisme, du progrès, étaient devenus indisponibles lorsque, au tournant du XXIe siècle, avec la mondialisation, avec la complexification d'un rapport au monde dans lequel on devait prendre en compte l'écologie, un rapport complexe à l'altérité qui n'est plus un rapport de domination, eh bien l'individu s'est retrouvé face à une nouvelle complexité. Et c'est peut-être aussi à cause de cela que la littérature est devenue une sorte de panacée, une sorte d'outil pour donner accès aux autres, pour offrir des solutions mentales. Et c'est cette piste déjà qu'explorait Antoine Compagnon en 2006 dans sa leçon inaugurale. Alors, cette manière que la littérature pouvait avoir d'intervenir dans le monde, forme politique que vous pouvez constater aujourd'hui dans toutes ces écritures féministes de combat ou écologiques de combat, elle est d'abord passée, je crois, dans ce tournant des années 2000, par ce paradigme de la réparation, de la thérapie. Les écritures se sont voulues, avec Patrick Modiano, réparer les fractures de l'histoire, avec Pierre Michon, réparer les fractures de la mémoire familiale. Elles se sont voulues, avec Régis Geoffrey, comprendre les formes de violence imposées aux plus vulnérables. Elles se sont voulues, avec Emmanuel Carrère, dans D'autres vies de la mienne, un texte dont je reparlerai tout à l'heure, essayer de proposer une manière d'être plus proche de ceux qui souffrent parce qu'ils sont surendettés ou parce qu'ils sont malades à l'hôpital. Les communautés blessées, les communautés asservies, aveuglées, l'altérité abandonnée, l'altérité innommée, l'histoire laissée trouée, l'histoire laissée asservie par des discours de domination, l'ensemble de ces concepts semblait être en attente d'une réparation littéraire qui, par l'empathie, qui par le pouvoir du récit de nous mettre à la place d'autrui, hein, nous permettait d'effectuer un certain nombre d'opérations mentales par lesquelles nous pouvions résoudre toute une série de blessures, toute une série de fractures qui marquaient donc ce début du XXIe siècle. Et je crois que de ce point de vue-là, ce retour d'intérêt d'une littérature pensée comme action s'est accompagné de tout un discours social, de tout un discours critique, de tout un discours qu'on trouvait dans les blogs, dans ces forums de lecteurs qui se sont développés à ce moment-là, où on recommandait des lectures pour telle ou telle situation de vie. Vous étiez déprimé, vous étiez en deuil, eh bien, vous pouviez avoir des recommandations de lecture que vos libraires aussi pouvaient vous adresser. Alors, tout ça ne s'est pas fait par un seul modèle d'œuvre, par un canevas qui serait celui du Feel Good Books. Il s'est fait par toute une pléiade d'auteurs et d'écrivains usant deux styles, deux formes littéraires différentes, allant évidemment du récit de soi jusqu'à des formes beaucoup plus inventives, jusqu'à des formes beaucoup plus expérimentales. Il ne s'est pas simplement agit de manifester une empathie sociale à la François Bon, à la Daniel Savenave, ou une empathie mystique à la Pierre Michon, mais on a décliné en fait toute une forme toute une gamme finalement d'écriture qui pouvait passer par des romans traditionnels, comme par exemple Eric Reinhardt, pour comprendre les formes d'emprise et de domination et les dépasser, ou des formes beaucoup plus hardies d'écriture fragmentaire, d'écriture brisée, comme celle qu'ont proposé un Pierre Paché, par exemple, à la limite de l'essai. On a déployé toute une gamme d'œuvres qui avaient pour point commun d'essayer de proposer, de nous permettre de retisser le lien social par les communautés de lecteurs, par la mise en commun des récits et des fictions, qui nous permettaient de faire face à ce que Alain Ehrenberg, le psychiatre, a décrit comme une nouvelle dépression moderne, qui était celle de l'assignation de l'individu à faire sens de sa vie par lui-même, en dehors d'un système de signes. Il a, de ce point de vue-là, Ehrenberg décrit cette condition qui est la nôtre, qui est de devoir en permanence nous comprendre et nous réinventer dans un système libéral dans lequel l'individu doit en permanence s'adapter. Nous sommes fatigués, nous dit Ehrenberg, de devoir produire des nouveaux récits, de devoir activer cette conscience narrative de nous-mêmes, si bien décrite par Paul Ricoeur, de devoir en permanence nous raconter, nous dire, nous réinventer dans des récits différents en fonction des circonstances de la vie. Eh bien, la littérature nous accompagnait en nous proposant un certain nombre de récits disponibles et une éducation narrative à la manière dont nous devions véhiculer, produire, formaliser et échanger des formes de vie incarnées dans des récits. C'était une des fonctions de la littérature, si l'on écoute l'ensemble des travaux qui ont fleuri à ce moment-là autour des pouvoirs de la littérature, le travail d'Antoine Compagnon que je citais, mais aussi toute une série d'essais, chez par exemple quelqu'un comme Michel Petit, toute une série de théorisations de cette action de la littérature. Alors, dans toutes ces formes d'action de la littérature, je voudrais insister plus précisément sur les formes les plus directement thérapeutiques, parce que c'est celles où on pourrait se dire, mais je veux bien à la rigueur que la littérature nous aide à produire des récits, à produire des identités narratives, mais comment la littérature peut nous aider concrètement, directement, à aller mieux. Eh bien, c'est cette postulation extrêmement forte qui est pourtant apparue, et cette postulation extrêmement forte, elle est née, je crois, quelques années avant le XXIe siècle. Elle est née dans les années 70, dans les années 80, lorsque toute une série d'écritures autour de l'épidémie de sida ont conduit toute une série d'écrivains majeurs venant d'une tradition extrêmement expérimentale, les Guillaume Bustan, les Gilles Barbedette, et évidemment le grand, l'immense écrivain que fut Hervé Guibert, à mettre leur maladie au centre de récits qu'on a pu baptiser autopathographie, des écritures qui étaient à la fois hyper réalistes et extraordinairement inventives, risquées, qui ont interrogé les pouvoirs de la littérature face à la tragédie d'une maladie qui était à l'époque mortelle. Ici aussi, Michel Foucault prononçait ses derniers cours se sachant malade et renchérissant d'un optimisme immense, peut-être pour cacher sa maladie. En tout cas, face à l'épidémie de sida, toute une série d'auteurs ont assumer ce geste qu'avait déjà peut-être anticipé Fritz Zorn dans Mars, ce texte célèbre sur le cancer, ont assumé de mettre chaque étape, chaque épisode, chaque moment de leur fin en scène, avec une ambition qui était, si ce n'est directement remédiatrice, du moins, l'idée que ces récits, ces échanges de récits, ces envois de récits, cette circulation pouvaient contribuer à les aider. Et c'est peut-être de ce moment, je crois qu'il est important de rappeler, parce qu'il est quand même fondateur dans ce retour à une utilité de la littérature, qui est peut-être née, cette idée d'une thérapie littéraire. Elle s'est poursuivie par tout un engouement extrêmement fort à partir des années 80 autour d'une écriture qui était une écriture du sujet, de l'expression de soi, qui était la grande littérature qui s'est renouvelée avec des écritures beaucoup plus immédiates de soi, beaucoup moins littéraires que les grands exemples que nous avions de Michel Léris dans le passé, mais qui ont trouvé, avec des auteurs aussi importants qu'Annie Ernaux, des formes simples, des formes directes de traduction de l'expérience, du quotidien, de l'ordinaire. C'est avec ces écritures de soi que les écritures de la maladie ont trouvé évidemment un immense espace d'expression. Et ces formes qui étaient aussi présentes dans des situations de maladie comme celle du cancer, comme celle de la dépression. Pensons par exemple au magnifique journal, au magnifique journaux de Alice Cléau-Roubaud à partir de la dépression qu'avait induit la maladie pulmonaire dont elle devait mourir dans les années 80, autour d'un ensemble de pathologies est née toute cette idée que nous allions donner sens à la maladie à travers une parole qui pouvait la mettre à distance, qui pouvait lui donner quelque chose d'une généralité, qui pouvait la transposer dans des métaphores, qui pouvait au fond en enlever la fatalité par le pouvoir de réappropriation que le fait de pouvoir raconter une expérience offre à celui qui la vit. L'écriture est alors mobilisée à partir des années 90-2000 par toute une série d'écrivains, aussi bien des grands écrivains comme Henri Beauchaud que par des écrivains amateurs. On se met à préconiser dans des ateliers, dans des hôpitaux, le recours pour les patients à des récits pour qu'ils aillent mieux. On invente toute une série de métiers d'accompagnement narratif de la maladie. On a des gens qui deviennent des accompagnateurs dans des unités de soins palliatifs, des gens qui deviennent des biographes, qui vont vers ceux qui sont hospitalisés en EHPAD pour les accompagner dans le récit de leur vie, en disant que la vie pourra supporter, que le récit pourra les aider mieux à supporter leur vieillesse. Et on a donc toute une série de pratiques hospitalières qui s'inventent à ce moment-là. En même temps, du côté d'écriture peut-être plus risqué, plus original, vous avez toute une génération d'écrivains, des gens comme Olivia Rosenthal, comme Mathieu Simonet, qui vont essayer de proposer des récits ludiques, des récits qui vont déplacer d'une autre manière la souffrance. Vous voyez cette conjonction extrêmement puissante de ces écritures ordinaires, de ces écritures amateurs, de ces écritures accompagnées par des médiateurs en hôpitaux, et d'un autre côté, les plus grands écrivains qui s'emparent aussi de ces thématiques. Tout ça concourt à repositionner la littérature dans un rapport nouveau, dans un rapport extrêmement fort et intéressant avec la médecine. C'est le moment aussi où arrive des États-Unis un champ qui s'appelle la médecine narrative, qui invite les soignants à s'intéresser aux histoires des patients et eux-mêmes à user d'ateliers où ils vont transformer la dureté de leur vie médicale, de leur expérience médicale, en des récits partageables. Tout ça participe d'un moment où on voit aussi dans les universités fleurir des formations qui sont à la frontière de la médecine et de la littérature, à la fois à destination des littéraires, pour essayer de leur faire comprendre comment la littérature peut être mise au service des patients, mais aussi à destination des médecins, pour les sensibiliser à l'intérêt de la lecture. C'est un moment où aussi viennent écrire et deviennent célèbres des écrivains médecins comme Patrice Autréau ou comme le plus célèbre Martin Winkler, dont La maladie de Sachs est un des grands best-sellers du tournant du XXe siècle. Je peux combien, c'est pratiquement 1 million d'exemplaires. Et Martin Winkler, dans cette citation, évoque le fait que écrire et soigner participent d'un même geste. Martin Winkler va raconter son expérience de médecin généraliste, de médecin de campagne. Il va montrer comment la littérature permet de compléter ce travail de remédiation en allant dans des espaces que la médecine ne peut plus toucher, les morts, les filiations brisées. Il s'intéressera beaucoup, vous le voyez, dans le rapport de souffrance que son père avait eu vis-à-vis de la société. Il investira cela de ses récits, et il pensera, comme ces humanités médicales qui naissent à ce moment-là, des complémentarités extrêmement puissantes entre l'action concrète de la médecine et l'action symbolique de la littérature. Bien sûr, ces modèles sont extrêmement anciens. Tout ça peut trouver des sources dans une très 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 ancienne tradition humaniste. L'historien grec Diodore de Sicile racontait qu'en haut, au fronton de la bibliothèque de Ramsès II, il y avait l'inscription « lieu de guérison pour l'âme ». Et toute une filiation n'a cessé de raconter ce pouvoir de lecture. Montesquieu disait en 1726 qu'il n'y avait jamais une heure de chagrin et de souffrance qu'une heure de lecture n'ait dissipée, Proust, fils de médecin, évoquait l'idée d'une discipline curative que pouvait être la lecture, et clairement, la tradition philosophique a rejoint cette tradition humaniste en évoquant la manière dont la philosophie elle-même, la sagesse philosophique elle-même, pouvait être mobilisée au profit du sujet souffrant. Vous savez, c'est évidemment ce qu'on trouve chez quelqu'un comme Alain de Botton, mais aussi chez beaucoup de vulgarisateurs d'une philosophie pour mieux vivre et moins souffrir, qui recourt notamment à Spinoza, qui est un des grands théoriciens. Dans le champ anglo-saxon, cette tradition, c'est celle de ce qu'on a pu appeler l'art-thérapie. C'est encore peut-être plus ancien dans le monde anglo-saxon qu'en France. Cette bibliothérapie, cette art-thérapie, elle date du XVIIIe siècle peut-être. En tout cas, l'idée d'une clinique littéraire, on la trouve déjà sous la plume d'un des disciples d'Emerson, Samuel McCord Crothers. Elle se répand dans une discipline qui aussi émerge outre-Manche, qui est le book counseling, le thérapeutique book counseling, et elle part de l'idée que le livre est une sorte de médicament. En France, elle se trouve relayée par toute une série d'essayistes, Marc-Alain Watkin, mais aussi évidemment Régine Détambelle, l'auteur de cet essai « Les livres prennent soin de nous », qui propose d'utiliser la littérature, non pas la littérature des feel-good books, des bouquins qui seraient juste des constructions un petit peu artificielles pour aller mieux le temps d'une lecture, mais d'explorer la capacité que le livre a de proposer mentalement au lecteur des alternatives possibles à la souffrance qui l'assaille, en lui permettant de la réélaborer, de la réorganiser, de lui donner une organisation, une structure, une dimension, des connotations créatives, théorise Régine Détambelle, qui va organiser d'ailleurs des ateliers, des formations. Vous pouvez vous inscrire dans ces formations à la bibliothérapie. C'est aussi un moment où, lorsqu'on discute avec les libraires, on s'aperçoit que eux-mêmes sont très souvent consultés pour savoir que faire, que recommander comme lecture à votre tante qui vient de perdre son mari, ou à votre sœur qui s'inquiète autant que vous de votre grand-mère qui a un Alzheimer. Quelle lecture faut-il pour penser, pour accompagner Alzheimer? Il y a tout un courant. J'avais entrepris de lister, d'essayer de cartographier cette littérature d'Alzheimer. Elle est gigantesque. Elle va d'auteurs comme Marc Lévy ou Schmitt, enfin des auteurs très grand public, jusqu'à des auteurs d'invention. Toute une littérature d'accompagnement d'Alzheimer naît aussi dans ce moment-là. Et l'idée d'une thérapie par la littérature, vous le voyez, elle se porte à la fois sur l'auteur qui va témoigner, mais faire beaucoup plus que témoigner, va réélaborer, va fictionaliser, va reconstruire, va poétiser, si nécessaire, son expérience, mais aussi du côté du lecteur qui, même s'il n'a pas les moyens d'écrire par lui-même, peut, dans un transfert d'expérience, dans des formes d'empathie, être mieux et peut-être se guérir. Tout cela forme tout un champ nouveau, toute une série de livres parfois regroupés dans des rayons hein, de librairies. Hein, vous avez des librairies qui ont des rayons hein, de littérature, de soins et d'accompagnement. Toute une série d'essayistes, d'auteurs se penchent sur la question, y compris notre cher Éric Chevillard, grand ironiste qui se plaît à désinguer tous les aspects de la modernité, mais qui finalement, sur la bibliothérapie, convient que peut-être ce n'est pas si vain et ce n'est peut-être pas si idiot que cela, que peut-être cela correspond finalement à une attente qu'on a souvent eue hein, de la littérature. La littérature est non seulement un outil d'apprentissage existentiel, mais aussi hein, une ressource face à la douleur. Je vous le disais tout à l'heure, dans des situations où l'accès au médecin, où l'accompagnement familial, où l'accompagnement de la communauté était devenu indisponible dans des situations hein, d'individualisme, d'accélération de nos vies. La littérature offrait hein, ce moment peut-être de repli et ce moment de lien à travers toutes ces socialisations de la littérature qui l'ont accompagné. Alors tout ça, comment ça fonctionne ? On a beaucoup réfléchi à ce moment-là sur les mécanismes précis hein, par lesquels la littérature pouvait hein, participer de ces effets bénéfiques. Et ce n'est pas un hasard si William Marx a commis un essai sur la notion de catharsis. Hein. La notion de catharsis revenait vraiment au cœur des interrogations contemporaines. Lorsqu'on s'est interrogé sur les effets de la littérature, le premier concept hein, qui a émergé grâce aux travaux de William Marx, c'est ce concept de catharsis, ce concept de purgation. Hein, on purgeait ses humeurs modernes, c'est un concept qui vient de la médecine, et c'est autour de cette notion hein, de purgation, de métabolisation, de transfert, qu'elle soit interprétée en des termes strictement médicaux dans la théorie des humeurs hippocratiques ou dans des théories psychanalytiques, hein, de transformation, dans des théories philosophiques ou des théories cognitives. Hein, les sciences cognitives ont participé aussi de cette compréhension hein, du pouvoir de la littérature. Eh bien, quel que soit le cadre interprétatif qu'on avait, on convergeait hein, vers l'idée qu'il y ait quelque chose d'une transformation des traumas, hein, que le trauma, que la souffrance trouver dans l'écriture et la lecture des manières de rédemption, de transformation, ou du moins d'apaisement. Toute une réflexion s'est développée aussi autour d'autres métaphores, la métaphore d'exorcisme littéraire, la métaphore également de viralité, la littérature, de prophylaxie, tout un vocabulaire médical s'est mis en place à la conjonction de la littérature et la médecine hein, pour essayer de comprendre comment, par exemple, pour citer un auteur, on va pouvoir développer un système immunitaire émotionnel face aux malheurs du temps, face aux souffrances du temps. On n'est peut-être pas si loin, au fond, de ces exercices spirituels d'immunisation stoïcien, hein, dont Pierre Hadot nous avait rappelé l'importance dans la tradition philosophique, hein, dans des essais qui avaient précédé hein, ce courant-là. Alors, tout ça, c'est également accompagné d'une littérature que j'ai essayé de décrire comme une littérature du soin. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de littérature relationnelle hein, que j'essaie de développer. Plus largement, la littérature du soin ou du care, si vous êtes partisan des théories anglo-saxonnes développées du côté de ce qu'on appelle l'éthique du care, hein, qui vont mettre en scène, qui vont décrire, qui vont valoriser la manière dont la littérature participe d'un rapport à autrui, d'un rapport de bienveillance, d'un rapport d'accompagnement. La littérature du care, c'est celle qui dans le récit d'Emmanuel Carrère, va décrire les soins hospitaliers, y compris les soins les plus ingrats, hein, celui qui maquille le mort, nous décrit Emmanuel Carrère, est une sorte de héros hein, de ce soin moderne, comme d'ailleurs celui qui, parce qu'il est juge, va accompagner les surendettés. Il y a un parallèle chez Carrère entre le soin médical et le soin social, et un parallèle avec le travail de l'écrivain. Hein, l'écrivain est celui qui va prêter sa plume et donc participer de ce travail de soin. Hein, l'écrivain est celui qui soigne de la même manière que le juge qui rend justice et que le médecin et que les soignants qui accompagnent. La littérature va fortement essayer de s'investir dans ces espaces ingrats que sont les hôpitaux, les EHPAD, les lieux de souffrance sociale, pour essayer d'être attentif à la vulnérabilité d'autrui. Hein, la littérature est ce qui permet de mettre les mots justes, les mots les plus fins sur ces formes, les formes variées de vulnérabilité, ces formes où le langage nous manque. La littérature vient les accompagner, pourrait-on dire. C'est une littérature qu'on pourrait qualifier également d'attentionnelle, hein, où toute la valeur, c'est de rendre dans une attention sursollicitée par les médias, par le numérique, de rendre un temps d'attention à celui qu'on ne voit plus. Hein, et c'est une littérature qui n'hésitera pas à revenir à des formes modestes, à des formes simplement d'enquête narrative. Hein, elle va souvent avec ce que j'appelle là ce mot de déflation, disons cette modestie de la littérature dans la manière dont on va décrire ceux qui sont privés de parole, ceux qui sont subalternes, ceux qui sont minuscules, comme le dirait Pierre Michon. C'est la catégorie vraiment de l'ordinaire, l'ordinaire de la détresse, l'ordinaire de la souffrance, le refus d'avoir un grand discours explicatif, d'avoir des grands discours moraux hein, qui est en jeu. Alors, quelques mots pour conclure hein, à l'égard de ces écritures relationnelles, attentionnelles, thérapeutiques, qui vont prendre soin, qui vont prendre en charge, qui vont se soucier d'autrui. Vous voyez la rupture extrêmement forte qu'elles ouvrent par rapport à ces écritures de distance. Hein. Maurice Blanchot disait « La littérature ne fait rien, n'ajoute rien, elle laisse être ce qui est. » Au contraire, la littérature contemporaine ne laisse pas le monde être ce qu'il est. Il entre en lutte, mais il n'entre pas en lutte par un engagement politique, mais d'abord par un engagement sensible, par un engagement qui est une invitation à l'empathie, à l'attention. Tout ça suscite évidemment des réactions, des polémiques, des débats extraordinairement intéressants. Cette littérature thérapeutique peut être critiquée parce que chez un Philippe Forest, avec lequel j'ai eu toute une série de discussions, notamment par médias interposés, Philippe Forest raconte dans cet ouvrage admirable qui est L'enfant éternel, la mort de sa fille à 7 ans d'un cancer. Et ce que dit Philippe Forest par rapport à ce paradigme thérapeutique, c'est que non, la littérature, au contraire, elle ne répare rien du deuil, mais au contraire, elle doit laisser les blessures ouvertes. Et mon débat avec Philippe Forest, c'est de savoir si tout de même, en écrivant 500 pages, comme il le fait sur la mort de sa fille, cette écriture ne participe pas tout de même, si ce n'est d'une guérison, du moins d'un dispositif d'accompagnement et d'aide par rapport au deuil. Donc tout ça ouvre tout un champ de débat. On peut critiquer hein, ces littératures de la remédiation comme étant des cache-misères d'une santé, de systèmes médicaux laissés en déshérence. On peut critiquer les invitations à une résilience favorisée par la littérature comme une manière finalement que la politique a de laisser à l'abandon les plus fragiles. Comme on peut de l'autre côté de la du champ du spectre politique, critiquer cette littérature qui perdrait sa hauteur de vie sur le monde et qui s'intéresserait à des choses indignes. Tout ça est donc l'objet de débats extrêmement importants, y compris dans l'université, dans la recherche. Dans quelle mesure peut-on décrire une littérature qui serait directement utile, qui serait une littérature d'intervention directe, qui serait une littérature qui viendrait répondre presque immédiatement à une demande sociale, à une demande personnelle. Est-ce que c'est encore de la littérature que cette réponse à une assignation à intervenir immédiatement face à la souffrance? Est-ce que on ne perd pas quelque chose qui serait une vertu peut-être surplombante, une vertu transcendante ou une vertu plus spirituelle de littérature par rapport aux affaires du monde? Tout ça est l'objet de débats. Je n'ai pas de réponse à savoir si cette littérature, elle marche, si lire tel ou tel auteur vous permettra d'accomplir le travail du deuil, vous permettra de surmonter une dépression. Je ne me prononce pas sur l'efficacité réelle. Ce qui m'intéresse, dans la mesure où je décris un champ littéraire qui est celui de la littérature française contemporaine, c'est le moment où ces discours ont fleuri à la fois dans la bouche des écrivains, dans la bouche des lecteurs, dans la bouche des commentateurs de la littérature. Et c'est un moment extrêmement important dans l'histoire littéraire, je crois, pour faire suite à l'essai de William Marx sur ce qui pourrait être une fin de la littérature comprise comme geste esthétique. Pour faire suite à cela, naîtrait quelque chose qui est une autre littérature, cette littérature d'action, d'intervention, de relation, qui viendrait directement effectuer une thérapie personnelle et collective. Merci, et je crois qu'on va pouvoir discuter ensemble.
Merci, Alexandre Geffen. Je pense que tout le monde a été très convaincu par cette description de tout un champ littéraire qui est en pleine effervescence, comme tu l'as dit, depuis assez longtemps, en fait, depuis au moins les années 1980. Je crois qu'effectivement, l'épidémie de sida a été un moment majeur, même si je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Guibert voulait réparer quelque chose par... Enfin, il insistait beaucoup sur la souffrance, sur le côté poignant de son histoire. Je ne sais pas si, de cette manière, il y avait une sorte de... Il me semble que ce qui se passe, c'est moins une réparation parfois que, pour reprendre le terme d'Annie Ernaux, une question de vengeance. Comme qu'elle dit, venger sa race. La formule a été largement commentée, on ne va pas la commenter ici. Mais il y a l'idée de prendre une revanche aussi. Prendre une revanche par une œuvre littéraire sur une maladie qui vous enlève les plus belles années de votre vie et qui vous fait souffrir. Il me semble que chez Guibert, c'était un peu ça qu'on avait, plutôt qu'une réparation.
C'est une littérature de rage, oui, en effet. De rage, de colère. C'est une écriture extrêmement ambitieuse aussi, qui va recourir à toutes les expériences finalement pour faire barrière, pour faire un barrage, ou en tout cas pour donner sens à ce destin qui lui est si lourdement assigné.
Alors, à la fin de ton exposé, tu as éludé la question à laquelle tout le monde pense, c'est-à-dire est-ce que ça marche? Il y a des études là-dessus?
Il y a quelques travaux empiriques qui existent, mais je ne sais pas si ça marche, mais on a beaucoup de discours, beaucoup de témoignages. Si on ouvre un forum de lecteurs comme Babelio, vous allez trouver d'innombrables lecteurs qui vont montrer à quel point
tel ou tel texte les a aidés à supporter le deuil, la maladie de leurs parents, leur propre maladie. Et je pense que si on a autant de témoignages de lecteurs, on ne peut peut-être pas en déduire les modalités exactes d'action, mais en tout cas, on peut faire confiance à toutes ces remarques qui témoignent au fond de notre propre expérience empirique. Qui n'a pas eu un moment de répit, qui n'a pas trouvé des outils mentaux face à la souffrance ou face à la finitude de ceux qui sont proches et donc à cette énigme métaphysique dans la lecture ou dans la philosophie. Nous avons tous, je crois, cette expérience de lire et de nous sentir aidés, je pense.
Alors, cela renvoie effectivement à... C'était très intéressant dans ce que tu disais, à savoir que tu montrais bien qu'il y avait en fait une généalogie très très longue de ce rapport de la littérature à la thérapie. Et pour ce que tu viens de dire, au bout du compte, cela renvoie à cette forme très classique rhétorique qui est l'exercice de la consolation, c'est-à-dire être, mais qui marche ou qui ne marche pas. Il y a cette fameuse lettre que je cite, enfin la lettre de Montaigne qui cite à sa femme la lettre de Plutarque qui écrit à sa pour consoler sa femme justement de la mort de leur enfant. Montaigne reprend cette lettre pour consoler sa propre femme et Céline, je me souviens, dans Le Voyage au bout de la nuit, se moque de cette façon de faire de Montaigne. Pour Céline, médecin. C'est important. Pour Céline, tout cela, c'est du vent, c'est du verbe, c'est une manière d'éluder la question. Donc, il y a eu une tradition rhétorique, par exemple, de la consolation, sans remonter jusqu'à la catharsis, évidemment, tout ça. Mais, en même temps, il y a eu des moments où on n'y a pas cru, vraiment.
Alors, je crois que Montaigne y croyait tout de même.
Enfin, oui,
je
veux Montaigne
dire, les essais, c'est comme un barrage extraordinaire construit contre la peur de la mort, contre la maladie, contre les failles. Hein, le nouement d'aiguillettes et autres misères qui touchent Montaigne. Quant à Céline, je crois qu'il ne croit pas à grand-chose. Hein, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment... Je crois que tu as raison dans le sens où on a eu aussi ces moments de désespoir face au deuil, ou comme Philippe Forest, on va dire ben non, en fait rien ne sert à rien parce que on a envie de conserver quelque chose de la souffrance intacte et on aurait le sentiment à ce moment-là que au fond une aide littéraire serait un peu vain, serait absurde et au fond Philippe Forest rejette la littérature comme résilience ou comme accompagnement de la même manière qu'il rejetterait l'usage des antidépresseurs ou des anxiolytiques en disant non je veux conserver sans doute la mémoire de sa fille dans sa vérité dans sa brûlure même.
De ce point de vue-là, Philippe Forest tout de même se revendiquait de la filiation esthétique formaliste un peu plus ancienne. Je citais dans l'Adieu de la littérature autant que je me souvienne ce poème de Dylan Thomas sur la mort d'une fille où il dit voilà en fait il n'y a rien à dire, la poésie ne peut rien là-dessus. Donc un peu dans le même dans la même perspective. Mais il est vrai que ce qui me frappe peut-être dans l'émergence, alors c'est pas l'émergence, mais peut-être, tu as beaucoup insisté, mais ça ne renvoie pas à toute la littérature, parce qu'il y a toute une littérature qui ne fait pas ça, heureusement. mais la profusion de cette littérature qui se donne une ambition plus ou moins thérapeutique correspond aussi à une évolution dans la médecine où on prend en compte le caractère du placebo. Donc il y a qui est inclus lui-même le placebo dans les protocoles thérapeutiques. Tu as quand même dit la part active que jouent les hôpitaux, les institutions médicales dans l'exploitation de ce type de d'écriture, en particulier par les patients eux-mêmes, des groupes de d'écriture qui peuvent être animés par des écrivains eux-mêmes. Je sais que Mathieu Simonet en a fait, mais ça remonte à loin. Je sais pas si tu as dans l'Antiquité, il y a cet écrivain grec qui est spécialiste de raconter ses propres maladies et ses propres traitements, c'est Élius Aristide. Je te le recommande comme lecture, ça permettra de mettre une perspective. Élius Aristide est quelqu'un qui, dans toute l'œuvre, consiste à raconter comment il est malade, comment il va régulièrement dans les sanctuaires d'Asclépios pour se faire soigner. Et l'une des manières de se faire soigner en Grèce, dans les sanctuaires d'Asclépios, c'est de dormir dans le sanctuaire et de recevoir des rêves du dieu. Et donc, le dieu lui envoie des rêves et il raconte, les uns après les autres, ses différents rêves. Donc, je t'invite à...
C'est une très belle référence.
Il raconte le détail de ses maladies et les rêves que lui envoie le dieu pour guérir ses maladies. Donc, on est à la frontière du sacré, quasiment de la psychanalyse. C'est assez étonnant. Je t'invite à regarder ça. Mais ce qui pose la question, au bout du compte, de la spécificité de notre moment, du moment que nous
vivons. Moi, j'essaie de la décrire par une rupture assez nette et assez franche, avec un rêve esthétique formaliste qui a été le moment du nouveau roman, qui a été cette extraordinaire abstraction littéraire qui prévalait, qui dominait dans la littérature, c'était complètement coupé de l'histoire et du monde, de l'histoire au double sens d'ailleurs, de l'histoire avec un petit H, avec un grand H, et qui avait poussé le rêve moderniste jusqu'à l'extrême consistant à se contenter dans un roman de décrire un plafond, enfin, ou une fêlure dans un mur, etc. Et donc, clairement, quand tout d'un coup les choses se renversent, tout le monde est extrêmement troublé parce qu'on a tous cette culture littéraire qui est partie de cette vision épurée de la littérature, hein, la vision aussi qu'avait Flaubert, hein, la littérature sur rien, etc. Donc, en tout cas, ma génération et sans doute la vôtre a été éduquée sur cette idée d'une intransitivité de la chose littéraire. On a tous lu Barthes et l'idée que le vrai écrivain, c'est celui au fond qui laisse le langage parler, qui ne doit pas parler du monde, qui ne doit pas parler de l'expérience. Et tout d'un coup, là, sans doute, la société se retourne dans ces années 80-90. Les discours explicatifs deviennent indisponibles. La société se sécularise de manière accélérée. Les formes d'accompagnement traditionnel de l'individu disparaissent. Et là, tout d'un coup, comme ça, en quelques années, dans un tournant qui a été décrit par d'autres que moi, par Dominique Viard, hein, des années 80, la littérature devient tout au contraire ce qui nous est directement utile, même ce qui nous est directement indispensable. Dominique Viard parle d'un partenaire d'élucidation, hein, qui serait devenu indispensable pour comprendre un monde auquel on n'a pas accès. Et j'essaie de compléter en disant que c'est un partenaire aussi de guérison à ce moment-là, peut-être parce que nous ne pouvons plus nous appuyer sur les mêmes systèmes de santé.
Hein. Oui. Enfin, tu dis deux choses différentes. Enfin, qu'est-ce que je viens de dire? J'y souscrirais assez volontiers, à savoir que il y a vraiment une sorte d'effet de balancier dans l'histoire de la littérature, c'est ce que tu viens de dire, à savoir qu'on passe d'une littérature très formaliste à une littérature qui l'est beaucoup moins et qui, après, ce qu'on pourrait appeler, décrire comme l'assèchement formaliste, eh bien, essaie de revenir vers quelque chose qui est de l'ordre plus de... qui donne plus de chair, qui est une reprise de contact avec le social, avec le personnel, l'individuel, avec le figuratif, en quelque sorte la figure humaine, l'incarnation du texte littéraire dans la société. Parce que tu disais au départ, tu ne disais pas tout à fait ça dans ton propos liminaire. Tu disais que c'était plutôt une évolution sociale. On peut imaginer effectivement on va plus vers l'individualisme. Mais cela dit, quand on regarde l'histoire de la médecine, je pense qu'on n'a jamais aussi vécu en meilleure santé qu'aujourd'hui, aussi longtemps et de manière aussi valide. Donc la médecine, je te parle de nos sociétés occidentales, riches, la société, la médecine a fait des progrès incroyables. Donc on pourrait imaginer que c'est plutôt dans les moments où les gens étaient très malades, assez vite, que ce type de littérature aurait pu proliférer.
Oui, je comprends, mais la médecine a beaucoup évolué, c'est-à-dire que la médecine moderne est une médecine extrêmement technique, c'est une médecine d'expertise, d'analyse, dans laquelle la relation au patient disparaît, la prise en compte de son histoire, on n'a plus le temps, les médecins n'ont plus le temps de s'intéresser vraiment au sujet, et c'est pour ça qu'en contrepartie, après ce moment ultra scientiste peut-être de la médecine, la médecine narrative revient pour essayer de compenser, de retrouver un équilibre. Bon, c'est très bien de mesurer des taux de telle ou telle enzyme, mais à un moment, il faut peut-être s'intéresser à la personne dans son histoire, peut-être d'ailleurs pour avoir encore de meilleurs diagnostics.
Oui. Et c'est très très fort. Enfin, on peut terminer là-dessus, mais je crois qu'effectivement, ça correspond à une évolution de la médecine. Hein, effectivement, là, aussi l'idée qu'il faut prendre en compte le patient en tant que sujet, et pas seulement effectivement dans comme un numéro à l'hôpital. Il y a toute cette longue tradition de médecins écrivains. Et tu as cité Martin Winkler récemment. On pourrait en trouver Georges Duhamel.
Victor Ségalène.
Voilà, Ségalène. Enfin, c'est assez nombreux, mais qui ne parlaient pas nécessairement de questions médicales. Mais il y en a un, pour le coup, auteur de best-sellers comme Winkler. Et j'ai été frappé, le connaissant un petit peu. J'étais une fois au Salon du Livre, c'était Baptiste Beaulieu.
Ah oui, en effet.
Et Baptiste Beaulieu, lorsqu'il signe, on peut terminer là-dessus, sur cette image, mais je te donnerai la parole pour conclure. Baptiste Beaulieu, lorsqu'il était au Salon du Livre, derrière sa table, en fait, les lecteurs, les lectrices, ne voulaient pas nécessairement qu'il signe un livre. Si, ils voulaient qu'il signe un livre pour eux, mais ils voulaient surtout être embrassés par Baptiste Beaulieu. En fait, il y avait l'idée du contact charismatique du médecin écrivain qui met les mots sur les souffrances des gens et qui va communiquer quelque chose de ça. Enfin, le contact était particulièrement physique, extrêmement affectif, extrêmement émotionnel. Ça m'a vraiment frappé, cette expérience-là.
Oui, je crois que c'est un moment où l'écrivain n'est plus celui qui est dans sa tour d'ivoire, celui qui est devenu une instance abstraite, mais au contraire, l'écrivain, c'est celui à qui on écrit, à qui on envoie des lettres, qu'on va voir dans des salons littéraires, avec qui on fait des ateliers d'écriture, qui devient proche, qui devient beaucoup plus proche de soi, et d'ailleurs, le nombre de personnes qui ont des pratiques littéraires se démultiplie. Donc clairement, le statut de la littérature devient quelque chose de beaucoup, beaucoup moins intimidant et distant, de beaucoup moins exceptionnel, mais devient une pratique ordinaire pour beaucoup de Français. Hein. Dans les études du ministère de la Culture, on est jusqu'à 7% de Français qui ont une pratique de l'écriture et jusqu'à 30% de Français qui rêvent au moins d'écrire un livre.
Oui, c'est l'art démocratique par excellence, c'est ce qui en fait effectivement quelque chose qui est accessible à tous pour comme traitement, en quelque sorte. Je crois que vraiment, Alexandre Geffen touche à des points très très importants à la fois de l'évolution de la littérature, mais aussi de l'évolution de la société qui, ça nous touche tous. Après, on en pense ce qu'on veut, et je pense que c'est une partie, c'est un filon de la création littéraire, mais je redis à nouveau, heureusement, c'est pas toute la littérature.
Je trouve extraordinaire la richesse de la littérature contemporaine où on peut avoir une littérature d'enquête chez Emmanuel Carrère, une littérature d'invention folle chez Chevillard que je citais tout à l'heure, aussi bien qu'une Annie Ernaux. La variété extraordinaire des styles, des formes, des genres, des questions posées par la littérature française contemporaine. démontre suffisamment que tout ce qu'on avait pu craindre autour d'une mort des littératures paraît totalement déplacé.
Mais, juste pour encore, j'arrive pas à terminer. Mais quelqu'un que tu n'as pas cité, peut-être volontairement, c'est Houellebecq. Bon. Houellebecq fait, me semble-t-il, exactement l'inverse. C'est-à-dire que lui, au contraire, il va pas essayer de guérir, il va essayer au contraire de montrer ce qui ne va pas et d'enfoncer le poignard et de le tourner dans le social, dans les choses. C'est un peu ça.
Ah, mais le dernier est un extraordinaire roman d'apprentissage de la maladie. Hein. Le récit qui fait extrêmement informé par des médecins d'un cancer imaginaire a une valeur au fond d'auto-immunisation peut-être contre la maladie. En tout cas, je pense qu'il travaille cette question médicale de manière extrêmement puissante.
Voilà, tout le monde est rattrapé par la thérapeutique. Merci. Merci Alexandre Geffen.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.